Radio Larzac vous présente dans les coulisses du musée de Millau et des Grands Causses. Une série de pastilles sonores pour découvrir le musée, ses métiers, son fonctionnement et ses actualités. Le MUMIG, Musée de Millau et des Grands Causses et site archéologique de la Grosfezinque, poursuit en 2026 son partenariat avec la chaire CNRS de professeur junior Habitabilité de la Terre et Transition Juste de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chaire occupée par Nastasia Martin autour des questions d'habitabilité. Dans le cadre de ce partenariat, 3 journées d'études sont organisées pour inviter chercheurs et chercheuses, habitantes et habitants et passionnés à questionner les relations que nous entretenons avec les éléments terre, eau, air et feu dans les Grands Causses. Alors que de profondes mutations climatiques et écologiques bousculent aujourd'hui nos représentations et nos modes de vie, allant jusqu'à menacer l'habitabilité de la terre et de nos territoires, dans quelle mesure les collections muséales comme celle du MUMIG peuvent-elles aider à penser et à redéfinir les liens que nous entretenons avec les Grands Causses? C'est tout l'objet de ces journées d'études qui s'articulent autour de conférences et tables rondes le matin, des ateliers pratiques l'après-midi et des soirées grand public où les chercheurs et chercheuses sont invités à présenter de manière sensible et performative leur rapport aux éléments convoqués. Radio Larzac est partenaire du MUMIG sur ce projet pour enregistrer et diffuser une trace sonore des échanges et des réflexions qui ont émergé lors de ces 3 journées. Vous trouvez déjà sur notre site radiolarzac.org les podcasts sur la première journée d'études consacrée à la terre et à l'eau sur les Grands Causses. Nous vous proposons aujourd'hui des enregistrements effectués à l'occasion de la 2e journée d'études qui avait pour objet l'air et le vent et qui s'est tenue à Millau le samedi 9 mai 2026. Après la session plénière de la matinée où les chercheurs et chercheuses ont présenté leurs recherches et échangé avec le public, les participantes et participants se sont réunis en atelier dans l'après-midi pour échanger un petit groupe autour d'une thématique précise en lien avec l'air et le vent. Clément Barniodi, géographe, et Katia Fersing, directrice du MUMIG, animaient l'atelier Habiter le vent. Vincent Noël, néphologue, et Olivier Aubin, géographe, animaient l'atelier sur les peuples de l'air. Et Gaëla Loiseau, anthropologue, était chargée d'animer l'atelier sur l'énergie éolienne aux côtés de Anne de Malray, éditrice. Dans les 3 ateliers, les participantes et participants ont pu s'exprimer sur des expériences personnelles et sensibles vécues en lien avec le vent et l'air.
L'expérience que j'ai vécue il y a quelques semaines, où en fait, je suis partie pour la première fois dans le Sahel en fait, pour un travail de recherche. Et je ne connaissais pas du tout cette région du monde. Et donc, si on revient sur le vent, à un moment, on rentre dans une université. Et parce qu'on veut voilà, rencontrer des étudiants, etc. Et en fait, là, je découvre la manière dont leur architecture est faite et comment en fait ils arrivent à créer un espace pour que, dans un espace qui est plutôt du type désertique, très aride, et ben en fait, l'air devient un support pour réussir à passer sa journée. Et en fait, il y a beaucoup d'espaces ouverts, il y a des grands couloirs. Et donc en fait, tous les espaces sont toujours touchés par une petite brise qui vient finalement plus nous soutenir dans cette expérience de la chaleur que nous écraser. Et voilà, enfin moi ça a été vraiment un moment où j'ai découvert une manière d'être et de cohabiter avec le vent, où là le vent devenait quelque chose de positif. En fait.
Une manière d'être et de cohabiter avec le vent. C'est une réflexion dont il a été question dans les différents ateliers où des personnes ont témoigné de techniques d'architecture utilisées par le passé et adaptées au vent.
Et les records enregistrés sur les voiles dépassent les 300 km/h. Ça fait peur, 300 km/h. Moi j'avais le Mistral à 110, j'étais pas content. J'ai souvent aimé discuter avec les personnes âgées. Je reviens sur l'architecture. Et une personne âgée de Saint-Mitre-les-Remparts à côté de chez moi, qui m'a vu grandir, et quand j'allais le voir, je lui ai dit, mais tu te racontes, il me dit, nous, on n'a jamais mis une fenêtre au nord. Il même jusque dans la Drôme provençale, mm-hmm. vous remarquerez les fermes agricoles dans la Drôme provençale, côté nord, il y a très peu de fenêtres. Et nous, en Provence, on était plus malins, on rajoutait des cyprès. Surtout que, comme on dit, quand on n'avait pas de chauffage, comme on était là, donc on avait les pièces au sud, pour profiter du soleil, et au nord, on n'avait pas de fenêtres.
Ce savoir-faire est lié à des connaissances sur les vents qui se sont oubliées au fil du temps.
Et là, je voudrais citer quelque chose que j'ai sorti du monographe de Sainte-Eulalie de 1887, le rapport de Jean, donc je trouve le roman des gens qui vivaient de la terre. Qui vivaient le sol, qui n'avaient pas accès aux loisirs, qui n'avaient pas accès des lits de labeur. Voilà. Donc, par exemple, le vent du sud-est, le vent marais, ben, il apporte la pluie, mais l'extrême violence est capable d'arracher des arbres et enlever les toitures. Le vent d'ouest ou vent noir, bon, il pleut beaucoup. Le vent du nord ou de bise, contrairement au précédent, c'est un vent sec et froid, mais considéré comme très sain, les cultivateurs l'apprécient particulièrement au moment de la maturité des céréales, car il favorise le développement de graines dans l'épi. Et après, on a le vent d'est, l'Oyal, qu'on appelle l'Oyal. Alors ce vent est assez rare, mais redouté, car il a la particularité de dessécher les plantes et d'absorber trop rapidement l'humidité du sol. Mmh. Voilà le rapport au vent qu'avaient les gens qui vivaient de la terre.
Le côté insaisissable de l'air et du vent a donné vie à des croyances religieuses et spirituelles, un lien avec ces éléments, jusqu'à ce que l'être humain commence à voler.
L'être humain, il vole et il s'aventure dans l'air depuis relativement pas longtemps à l'échelle humaine. Avant, il n'y avait pas d'humain dans l'air. L'air, c'était le domaine essentiellement
de l'IRL,
des croyances.
Tout à fait.
De la modernité, grosso modo, on est capable de voler et on s'est approprié le ciel.
Absolument.
Et on parle d'espace aérien.
Absolument. L'espace aérien est maîtrisé, je dirais domestiqué, alors qu'il n'était pas domestiqué à l'époque. Il était vraiment l'objet du surnaturel, qu'il soit bénéfique ou maléfique. C'était les deux, le contraste que d'ailleurs les religions ont géré face à ça.
Non, c'est pas vrai.
Mais il n'est pas dit que si on interroge par exemple la religion islamique, ce serait intéressant de voir quelle est la vision du ciel par rapport à l'islam. Hein. Ça m'intéresserait d'avoir l'avis par exemple soit d'un rabbin juif ou bien d'un imam arabe. Hein. Ce serait très intéressant. Qui n'est pas du tout, je pense, à notre vision du monde occidental. Voilà.
Les participantes et participants aux ateliers racontent la diversité des points de vue et des témoignages exprimés, qui donnent vie à des riches réflexions sur notre rapport à ces éléments invisibles que sont l'air et le vent, et sur la nécessité de retrouver un lien sensible avec ces expressions du vivant.
C'était de recueillir des expériences personnelles ayant trait au vent. Il y avait beaucoup d'expériences comme quoi c'était gênant, le vent pouvait être gênant. Ça me pose question sur vraiment notre position d'humain, je comprends hein, tout à fait, mais notre position d'humain, vraiment de voir les choses depuis notre point de vue. Ou alors des choses où on est surpris par cet élément, c'est sûr que c'est très surprenant ouais, quand il se déchaîne.
Ça allait de l'historien qui nous parlait des cathares à des gens qui ont des expériences sur leur bateau, après des choses aussi sur le Larzac qu'il y avait à voir ici, toutes les expressions qui pouvaient tourner autour du vent, si le vent était mauvais ou bienfaiteur. C'était assez riche et dense. Et puis comme on était avec le néphologue, on a parlé un petit peu de nuages aussi. Ah, moi, j'ai carrément dit que je faisais partie du peuple de l'air, mais c'est parce que je souffle dans un trombone et que comme en première partie ce matin, il y a un conférencier qui a dit le vent du dedans et le vent du dehors est relié, qu'il y en avait une responsabilité, moi, ça m'a carrément parlé parce que c'est mon instrument, c'est un instrument à vent. Et voilà, moi, perso, j'ai raconté, parce que je joue dehors, et d'un moment de musique, d'improvisation avec d'autres musiciens, musiciennes d'essoufflants qu'on avait joué là-haut sur le Causse, face à nous, le paysage, le vent, et avec le public dans le dos, c'était quand même des moments très forts, et aussi parce que ça nous clairement tout ce que ça a à voir avec l'invisible aussi. Le vent peut nous rendre visible, ou voilà, des choses, ou ça nous permet de nous connecter. On dit que le vent est annonciateur aussi.
Moi, ce qui m'a marqué, c'est la mobilisation du temps et de l'espace. La mobilisation du temps, ce qui m'a marqué, c'est le rappel du bon sens des anciens dans leur manière de concevoir et de fabriquer leur maison. pour éviter justement les nuisances du vent. Ce clin d'œil à nos ancêtres, qui étaient peut-être moins éduqués que nous, mais peut-être beaucoup plus sensibles à leur environnement, moi je trouvais ça intéressant de rappeler ces éléments liés à notre histoire. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est le rapport à l'espace, où selon les régions, soit le vent est une menace, soit le vent est une opportunité, soit le vent est un soin. Quelqu'un a parlé du docteur Mistral, en disant que précisément, à certains moments, il était absolument indispensable pour nettoyer cet air totalement impur qui était dans le secteur. Ou à d'autres moments, le vent peut ramener des nuisances. Donc j'ai bien aimé ce croisement de l'histoire et de ce que faisaient nos ancêtres, de toutes les contingences liées à l'espace, donc le vent ou l'air, tantôt opportunité, tantôt menace. Alors ce qui m'interpelle maintenant, c'est l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Donc je suis impatient de voir les produits dérivés et les suites de ce genre d'aventure.
Cette journée d'air et de vent s'est terminée par une soirée ouverte au grand public, conçue comme une ouverture vers d'autres territoires et cosmologies pour explorer d'autres relations à l'air et au vent. Une soirée inaugurée par Katia Fersing, Nastasia Martin et Malika Verlaguet qui ont donné à voir la présence du vent dans notre imaginaire qui se traduit dans une multiplicité d'expressions linguistiques imagées en français et en occitan.
Libre comme l'air. Des paroles en l'air.
C'est dans l'air du temps.
J'étouffe. Je suffoque.
Je manque d'air.
Je suis oppressée. Brassée du vent.
C'est du vent cette histoire.
Il y a de l'amour dans l'air. On y va, toute voile dehors.
C'est irrespirable.
Je ne peux pas te sentir. Le vent du changement.
Un vent de renouveau.
Un vent de liberté. Un air de printemps.
Qui sème le vent récolte la tempête.
Un vent de folie. Tu me pompes l'air.
À contre-vent.
Contre vents et marées. C'est dans l'air du temps d'aller contre vents et marées.
Aller dans le sens du vent. La bise et le cookie s'élèvent toujours mati.
Ben de la nuit, passe au passe mon puetch, et ben del jour, dure un chose.
Si ces expressions linguistiques désignent une diversité des relations au vent et à l'air, nous avons, d'un autre côté, perdu notre sensibilité à ces éléments et la capacité à se laisser traverser par eux. Le dérèglement climatique et écosystémique que nous vivons actuellement efface aussi les archives atmosphériques de la Terre. Comme l'a écrit Nastasia Martin dans un texte qu'elle a présenté à cette occasion, inspiré de son expérience de chercheuse auprès des peuples autochtones en terre Aymara, sur les hauts plateaux andins entre Chili et Bolivie.
1965, Terra Deli, Antarctique. Claude Lorius dirige l'hivernage à la base française du Mont d'Urville. De retour d'un forage, un soir, il plonge un fragment de glace vieux de 15 000 ans dans son verre de whisky. C'est important. Des bulles d'air s'échappent en pétillant à mesure que le glaçon fond. Fulgurance. Il imagine que les bulles de gaz emprisonnées dans les glaces sont peut-être les témoins de l'atmosphère du passé. Qu'en les analysant, il serait certainement possible de la reconstituer. L'atmosphère du passé. Il faudra des années pour justifier cette intuition qui se révélera non seulement juste, mais fondamentale pour saisir le lien étroit entre climat et gaz à effet de serre. La beauté du geste, ce à quoi ouvre la découverte d'antiques bulles d'air dans le glaçon, c'est le surgissement de la mémoire. La glace porte un souvenir invisible, un souvenir d'air. Elle porte en elle les réminiscences des grands cycles géochimiques de la Terre. Sous l'effet du réchauffement global, cette mémoire disparaît comme neige au soleil. Nous sommes en train de perdre les archives atmosphériques de la Terre dans un grand incendie hors de contrôle. La bibliothèque est en feu. Ces pages d'atmosphère partent en fumée. 800 000 ans d'histoire qui auraient fait pâlir d'envie Alexandrie. Certes, nous y avons eu accès suffisamment tôt pour saisir notre culpabilité de pyromane. Nous qui avons brûlé tant et plus de fossiles pour soutenir l'idéologie du progrès. Cette compréhension ne s'est pas traduite en action qui aurait pu inverser le processus avant qu'il ne soit trop tard. N'est-il pas étonnant qu'une société littéralement amnésique d'elle-même, qui n'a de cesse d'aller de l'avant, en oubliant d'où elle vient et ce qui la fonde, soit confrontée à la perte de ses archives les plus anciennes, soit forcée de regarder le feu s'étendre jusque dans les couches les plus profondes des géants de glace. Et évidemment, l'image mythologique de Prométhée s'impose encore. Prométhée enchaîné face au feu qu'il a volé et qui lui a échappé. Que cela arrive à cette société-là, celle qui a écrit, annoté, décrit, documenté, analysé et conservé ses archives depuis plus de 2 millénaires, n'est certainement pas quelque chose d'anecdotique. Qu'est-ce que cette perte de mémoire atmosphérique contenue dans les glaces sous forme de bulles d'air nous raconte de nous-mêmes? Nous qui, sans les outils technologiques actuels, sont devenus balbutiants, incapables d'accéder à ce qui nous précède. Oui, la bibliothèque mémorielle brûle. Et il ne s'agit pas seulement de la mémoire imprimée sur les arbres qui fabriquent les pages de nos livres, les disques durs de nos ordinateurs. Il s'agit de celle qui se tenait royalement indifférente au destin des humains, cachée dans les glaciers sous forme de vide. Accompagnons notre amnésie devenue pathologique, la mémoire de l'air contenue dans l'eau gelée s'évapore et retourne dans les limbes là d'où elle venait, into thin air, ou de manière plus actuelle, into thick air. Un voyage à l'écoute des collectifs autochtones qui n'ont jamais conçu les, entre guillemets, milieux abiotiques comme autant de solides et de flux régis par les seules lois de la mécanique des fluides peut nous aider à percevoir autrement la métamorphose en cours. Non pas parce qu'ils auraient les bonnes réponses et pas nous, mais parce que, en menant leurs existences en codépendance étroite avec les éléments, ils ont trouvé les manières de se rendre sensibles aux vibrations invisibles dont les matières sont traversées. La découverte, entre mille guillemets, d'une mémoire engrammée dans ces éléments ferait sourire nombre de chasseurs, collecteurs, cultivateurs, pasteurs des toundras et montagnes du Grand Nord, à l'Altiplano et au glacier des Andes. Les controverses qui jetèrent les théories de la mémoire de l'eau aux oubliettes de la science, contrairement au paradigme bien étendu des atmosphères enfermées dans la glace et de la géomorphologie des roches, leur tirerait certainement un grand éclat de rire. Pour l'immense majorité de ces collectifs, l'eau dans tous ses états porte en elle la mémoire de toutes les phases et de tous les milieux qu'elle a parcourus et fertilise ainsi ce qu'elle traverse à nouveau.
Retrouver une dimension sensible dans notre rapport au vent, c'est aussi le propos au cœur du documentaire Pour le Mistral, réalisé en 1966 par Jerry Evans et présenté lors de cette soirée par le géographe Clément Bargnodi.
Moi, ce qui me marque en regardant ce documentaire, c'est qu'il nous remet en situation de nous relier à une dimension existentielle, ontologique de notre rapport à l'élément air, à l'élément vent, qu'on partage tous en fait. Et quelque part, c'est la base pour discuter après, par exemple sur des questions de partage de ressources ou d'utilisation de la ressource, c'est de retourner sur cette couche profonde de notre appartenance, de notre existence au monde, où on a tous, on l'a vu cet après-midi, c'était très beau, on a tous un lien à l'air, au vent, par les expériences qu'on a vécues dans l'enfance. Là, on voit les enfants qui courent à un moment donné, je ne sais pas si vous avez vu, quelqu'un a dit cet après-midi, à chaque fois que les enfants sortaient de la classe et qu'il y avait du vent, ils couraient comme ça, une espèce d'instinct, de se confronter dans un jeu avec le vent. Et alors, ce qui est très beau chez Jerry Evans, c'est qu'il ne tombe pas dans quelque chose de, j'allais dire, de manichéen. Il va y avoir d'un côté une espèce de glorification du vent comme quelque chose d'extraordinaire, hein, ou de l'autre quelque chose de monstrueux qui va générer de la désolation. Et c'est là peut-être une de ses qualités, c'est de nous faire rentrer un peu dans la matière avec les sons, avec tout un travail sur les textures.
Par les chemins roux de l'abeille, les cités mortes, par les camps de la lavande et par les vieilles figures idoles se dressant, par la voix des guets et des roches, par des traces et des échos, par un azur que l'aigle approche des gorges d'enfer et des crocs, par des collines planétaires, caravanières de la nuit, par des torrents à sec, des terres hallucinées au moindre bruit, par des fracas inexplicables et des signes avant-coureurs, par ce souffle plissant les sables et ces tourbillons de la peur, par des contes et des mystères scellés dans la pierre des bourgs, par le pays qu'un soleil serre, les sortilèges d'un rude amour. contre le vent. On l'arrête, le vent. On le divise. On lui coupe ses bourrasques. On le terrasse. Et quand ce vent s'appelle Mistral, il faut poster des sentinelles droites comme des cyprès.
Plus loin, en Amérique du Sud, le peuple voyou est concerné par des implantations d'éoliennes sur son territoire. Gaëla Loiseau y a mené une enquête anthropologique en explorant notamment le rapport au vent chez le peuple voyou. Un rapport spirituel, puisque le vent permet de rentrer en communication avec les ancêtres, véritable guide dans tous les aspects de la vie. Gaëla Loiseau a raconté son enquête par des mots, mais aussi par un instrument de musique traditionnel.
Chez les voyous, comme le vent, c'est le langage, celui qui nous amène la langue et la vie, mais en fait, c'est logique que chacun a aussi son mode d'expression à travers ses instruments. Il n'y a rien de préétabli. Donc en fait, l'improvisation, c'est la manière même de s'exprimer avec ses instruments dans la culture voyou. Quand ils vont demander s'ils peuvent, donc à l'un de leurs frères et sœurs, ancêtres, s'ils peuvent prendre une partie de ces éléments végétaux pour fabriquer un instrument de musique et qu'ils obtiennent l'autorisation, eh bien, ensuite, c'est pas fini. Parce que le premier trou va donner la parole aux ancêtres. Et ce premier trou donne la parole à la grand-mère maternelle. C'est une culture matrilinéaire, abuela, qui non seulement est l'abuela, mais qui représente dans la culture la langue maternelle. Ensuite, nous avons la mère. La mère représente, si je me souviens bien, la spiritualité. Ensuite, on a l'oncle maternel. Donc on descend toujours, hein, le troisième trou. L'oncle maternel, lui, il va représenter le territoire, les wayous, la guajira. Ensuite, on a le sobrino, le neveu, donc le fils de la sœur, toujours dans cette lignée maternelle, qui lui représente l'organisation sociale. Et enfin, la nieta, la petite fille, qui représente l'économie traditionnelle. Je vais essayer de faire parler ces différents ancêtres à travers cette mélodie. Vous pouvez rire. Vraiment, vous rigolez, mais vous allez voir que c'est pas facile de faire sortir un son, d'accorder mon souffle avec le leur, celui des ancêtres.
Je suis pas wayou non plus.
Cette soirée aura été une invitation à faire un pas de côté en ce qui concerne notre rapport à l'air et au vent. Questionner nos imaginaires en s'appuyant sur la mémoire longue des êtres humains et non humains, d'ici et d'ailleurs, est tout l'objet du cycle de Journée des Suds à la lisière des mondes. Redéfinir notre rapport aux éléments naturels, se placer au milieu du vivant et pas au-dessus, est un changement d'échelle nécessaire pour comprendre et agir face à la crise écologique que nous traversons actuellement. La prochaine journée d'études du cycle « À la lisière des mondes » se tiendra à Millau le samedi 3 octobre autour du feu. « À la lisière des mondes » est un projet porté par le MUMIG, Musée de Millau et des Grands Causses et site archéologique de la Grofezinck, un partenariat avec la chaire CNRS de professeurs juniors Habitabilité de la Terre et Transition Juste de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chaire occupée par Anastasia Martin. Vous pouvez retrouver ce reportage ainsi que tous les enregistrements des journées d'air et de vent et de terre et d'eau sur le site radiolarzac.org. C'était dans les coulisses du musée de Millau et des Grands Causses, une série de pastilles sonores réalisées par Radio Larzac en partenariat avec le MUMIG et le service culture de la ville de Millau. À retrouver en podcast sur radiolarzac.org.